Alors oui, bienvenue à cette émission des Héros Anonymes. Toujours un plaisir de recevoir des gens extraordinaires en studio. Et puis on reste dans le thème de recevoir des gens extraordinaires. On a avec nous en studio Elizabeth Anne Doyle, directrice générale, artistique, cofondatrice, plein de titres qui sont rattachés à deux lettres, MU, MU. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, vous-même?
Ça va très bien, merci. Il y a comme une fébrilité du temps des fêtes là, dans l'air, dans le studio. Là, on a l'air d'être des enfants bien excités. On va essayer de se calmer pour le reste, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. MU, M-U. Pourquoi MU?
On a choisi ce nom parce que, bien évidemment, mur, mural, c'est le début.
Ouais.
Muse, musée. Mais ce qui nous a charmé de ce nom-là, c'est l'idée de mu comme une nouvelle peau.
Ah.
Donc, l'idée de la transformation, en fait.
Ouais.
Alors, les murales comme une nouvelle peau sur les murs de la ville.
Mmh.
Et du verbe mouvoir, donc du mouvement, de la mutation, l'idée de transformation.
OK, c'était pas juste deux lettres qui restent au Scrabble. Il y a une réflexion
non.
en arrière de ce nom-là
oui.
qui est mu. Et je disais d'entrée de jeu, ben les gens qui se promènent à Montréal, sans même le savoir, ont peut-être consommé de ce musée-là, de ces murales-là, parce que il y a des murales extérieures, il y a d'autres expressions artistiques intérieures, il y en a un peu partout. Mu, c'est pas que de la peinture sur un mur pour le rendre plus beau parce que du béton, c'est laid, ce n'est pas que ça. Il y a certainement une volonté peut-être de se réapproprier sa ville, se réapproprier des quartiers, de garder un certain souvenir de gens, parce que je pense, évidemment, c'est pas la seule, hein, il y en a quand même plus de 200 là, à l'extérieur, là, mais Leonard Cohen en est une qui résonne beaucoup, que les gens ont vu beaucoup. C'est quoi votre intention avec ces murales-là extérieures sur les murs, au-delà de rajouter du beau, mais déjà c'est pas bête de rajouter du beau sur du béton gris, là.
Bien, l'intention est très simple, elle vient d'une double histoire d'amour, c'est l'amour des arts et des artistes, puis l'amour de Montréal. Donc, c'était comment on met ça ensemble, puis qu'on peut partager notre amour avec tous et toutes. Donc, très simplement, ça vient de là. Et quand on aime notre ville, on l'aime parce qu'elle a une échelle humaine. Cette belle ville de Montréal, parce qu'elle a plein de quartiers différents qui ont une couleur différente, une vie, une énergie différente. Et ces citoyens qui sont tellement bigarrés.
Ouais.
Nous, on avait envie que, justement, les œuvres soient accessibles à tous, à toutes, qu'elles soient ouais, dans les quartiers, dans la vie des gens.
Il n'y a pas de coût d'entrée, hein, comme dans un musée, pour aller voir une œuvre sur le mural.
Exact. Ouais. C'est ça qui est beau. Puis, je pense que c'est quand même un grand territoire, l'île de Montréal, et c'est pas... les arts visuels ne sont pas nécessairement accessibles à tous en tout temps. Donc, à la base, la prémisse, c'est sûr que c'était la démocratisation de l'art, amener l'art dans la rue, l'art pour tous, et l'art près de chez vous aussi. Mmh. Donc, dans mon quartier, une œuvre à laquelle je peux m'identifier. Alors, pas non plus juste des œuvres pour de la décoration, mais des œuvres qui font du sens puis qui résonnent pour les gens qui vivent avec les œuvres tous les jours.
Oui, parce que tout ça est toujours un peu attaché avec la communauté. Les besoins ou les thématiques émanent de la communauté. Hein. Je crois que c'est pas tant vous qui arrivez, à part peut-être un projet en particulier, mais qui arrivez puis qui imposez une œuvre, ça va être ça votre mural, ça va être ça le projet. La communauté est partie prenante de tout ça, non?
Oui, la communauté est toujours partie prenante. Après ça, c'est pas nécessairement... ce ne sont pas des œuvres en co-création.
Non, non, non.
C'est pas nécessairement participatif. Tout le monde a eu son mot à dire. Mais il y a une écoute, il y a un désir d'authenticité puis de respect. Donc, observer ce qui se passe dans le milieu, observer qu'est-ce que les gens veulent, écouter. Et puis, toujours s'associer avec des groupes locaux. Nous, on a un volet jeunesse qui est au cœur de notre mission caritative, en fait. Donc, toujours s'associer avec des organismes locaux qui, eux, comprennent davantage les réalités que nous, qui ne sont pas dans tous les quartiers. Donc, l'idée, c'est toujours s'associer avec un groupe local, discuter avec les élus, avec les gestionnaires, avec les tables de quartier. Donc, avoir le pouls. Puis surtout les jeunes qui ont souvent un pouls puis des yeux bien différents
ouais.
dans la vie.
Oui, certainement. Puis c'est probablement, il y a beaucoup de distinctions entre vous et ce que des entreprises privées ou d'autres artistes vont vouloir faire. On a vu des hôtels qui ont décidé de refaire leur mur extérieur. Mais vous avez la distinction. Premièrement, vous êtes un organisme de bienfaisance. Il n'y en a pas d'autres. Hein, mm-hmm. Ce que je cherche, vous avez cette arrimage-là, vous avez cette mission-là aussi auprès des jeunes qui m'apparaît fort intéressante. Puis je me demande, ben justement, c'est quoi la place des jeunes dans cette démarche-là? Parce que c'est pas... comment je dirais ça? Tu sais, des fois, on se ramasse une gang de bénévoles, on fait une corvée, puis c'est extraordinaire. Mais là, vous ramassez pas une gang de bénévoles avec deux, trois pots de peinture qui restent à quelque part, puis on s'en va faire une murale. On s'entend, c'est des artistes, c'est des gens des arts visuels qui font ça, puis qui font ça de manière extraordinaire. Mmh. J'en ai une particulièrement là, qui me parle, qui est l'hommage à Jean-Paul Riopel de Marc Séguin. Bon, il faut dire que j'aime l'artiste en partant, fait que c'est sûr que j'ai un biais. Mais c'est ça, c'est pas un trip de communauté. Là. Il y a quand même toute une démarche artistique en arrière de tout ça. Donc, les jeunes, comment ils s'insèrent dans tout ça?
Bien, c'est une bonne question parce qu'en fait, naïvement, au début de MU, on pensait vraiment que les jeunes et toute la communauté viendraient peindre à chaque fois.
Ah oui?
Oui, c'était vraiment... MU s'est inspiré d'un projet de la ville de Philadelphie. Puis, ils ont une approche très communautaire, très, ce qu'on dit en anglais, « grassroots ouais. ». Et c'est ce modèle-là qu'on tentait de, ou en fait qu'on espérait appliquer à Montréal. Et bien vite, on s'est rendu compte qu'en fait, dès qu'on avait un échafaudage, on était considéré comme un chantier de construction et régi par des règles de RBQ, de CNSST et autres. Et donc, c'était pas possible qu'il y ait plein de gens partout autour et surtout pas des enfants. Alors très vite, ça nous a fait créer en fait un programme en parallèle. Et donc, on s'est mis à offrir des ateliers et des murales faites pour et par les jeunes dans leur milieu de vie, qui essayent toujours d'être en résonance avec le projet de fresque extérieure, mais qui a plus une échelle et une thématique, un narratif qui résonne pour les jeunes. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on s'est mis à créer un programme éducatif en milieu communautaire l'été. Et qui, avec le temps, on a pris des antennes et s'est développé en milieu scolaire durant l'année. Et je suis fière de dire que cette année, on a offert plus que 50 projets dans des écoles
wow.
en 2023 et plus d'une trentaine de projets jeunesse en milieu communautaire durant l'été, cet été.
Ben, c'est pas rien parce qu'il y a quand même un arrimage à faire avec tout ça. Vous ne pouvez pas juste arriver dans une école, faire votre projet, puis bon... Tout ça, on s'entend, les écoles, ça fait partie d'une grosse machine, là, les centres de services scolaires, tout ça, il y a des autorisations, il y a plein de trucs, puis j'imagine aussi que même ça doit être encore plus complexe quand vous arrivez sur un mur d'un building, là, il doit avoir deux, trois permis, deux, trois autorisations à aller chercher avant de réussir à pouvoir monter un échafaudage, mais dans les écoles, est-ce que c'est rendu que c'est les écoles qui vous approchent parce qu'ils ont compris toute la valeur que ça amenait, toute la mobilisation aussi de la communauté étudiante que ça amène. Comment ça fonctionne, justement, cette entrée-là, que l'art rentre dans l'école par cette porte-là de MU?
Ça rentre de deux façons. Il y a un programme qu'on a créé pour les secondaires 5, qui est un programme très soutenu.
Parce qu'il dessine mieux que le secondaire 1?
parce que, en fait, notre objectif était la persévérance scolaire post-secondaire par la découverte des arts et des métiers artistiques. Donc là, on vise vraiment la fin du secondaire quand les jeunes sont tétanisés par le futur et manquent d'options. Et c'est sûr que les arts et les métiers créatifs, c'est pas souvent mis de l'avant dans un processus d'orientation.
Non.
Donc, de faire une murale avec ses pairs, laisser sa trace dans l'école que tu quittes, c'est une façon déjà de s'engager civiquement comme jeune citoyen, de comprendre que c'est pas pour toi que tu le fais, mais pour les autres. Mais nous... sous-jacent à ce legs, ben c'est la découverte d'artistes, de professionnels qui œuvrent dans les milieux de la créativité, comme par exemple l'architecture, la conception de jeux vidéo, l'illustration, le design graphique. Et là, donc, ils font cette murale, ils découvrent plein de techniques et chaque semaine, ben ils découvrent un professionnel qui travaille et qui va leur témoigner, en plus des techniques qu'il va échanger, mais où il va pouvoir... partager son parcours académique et son lieu de travail, partager un portfolio puis tout ça. Et ça éveille les jeunes, comme juste en jeu vidéo, par exemple, de comprendre qu'il y a des gens qui dessinent en arrière des jeux que les enfants utilisent, souvent les jeunes n'ont pas réalisé tout ça. Alors, on ouvre les portes à ensuite des programmes de cégep et d'université dans tous ces métiers-là. Et on a un taux de 85 % de jeunes qui, après avoir suivi le programme Lestatras, décident de s'orienter au cégep et à l'université dans les métiers créatifs. Alors, ça, c'est un immense succès. Autrement, les programmes scolaires qu'on a sont... nous sommes homologués
tout ça, là, oui.
Par le ministère de la Culture et de l'Éducation dans les programmes de culture à l'école. Okay. Donc, les écoles peuvent effectivement nous appeler. C'est une offre de service qui est sur la banque des activités scolaires et parascolaires que les écoles peuvent aller chercher avec des organismes externes. Donc, on vient dans l'école, effectivement, et on réalise un projet d'heure avec les jeunes.
Wow!
Oui.
C'est, j'ai pris le temps d'aller sur votre site web, puis vous avez des capsules vidéo sur votre chaîne YouTube. Il y en a une qui est extraordinaire, puis c'est un artiste en dessin, Mathieu, là, si je ne me trompe pas. Il dit, ben, tu sais, à quel point c'est les jeunes pour qui l'art, tu sais, c'est large, c'est vaste, ils savent pas exactement ce que c'est concrètement, puis ils savent pas nécessairement que ça peut être un métier, puis qu'on peut gagner notre vie par l'art. Donc, c'est pas qu'un passe-temps, là, c'est pas juste des gribouillis dans un cahier. C'est une démarche, c'est un métier. Puis ça se concrétise de différentes façons, parce que oui, bon, il y a le dessin, il y a les jeux vidéo, donc il y a différentes façons. Donc, probablement que vous ouvrez une porte, certainement, pas probablement, vous ouvrez une porte dans une réflexion à laquelle les gens se demandent pas, ben, je m'en vais-tu dans tel métier? Mais au fait, OK, mais il y a d'autres options. Et sachant à quel point, ben, comme vous dites, là, le secondaire 5, les jeunes sont tétanisés devant l'avenir, ben, je pense que c'est pas bête de leur offrir une option qui peut à la fois ben, les garder sur le chemin académique, mais en même temps, les garder dans quelque chose de passionnant puis d'intéressant.
Exact. Là. Donc, c'est une expérience collective et artistique, la murale, mais qui poursuit un objectif, une action orientante, c'est-à-dire d'être capable de se projeter, découvrir des métiers, puis de se projeter. Donc, c'est vraiment de donner de l'espoir, en fait.
Ben oui, vraiment. Puis dans les écoles, comment la thématique, elle est choisie, le type de projet, la murale, comment elle va prendre forme? Est-ce que c'est encore une part de l'artiste qui fait partie du projet, qui est porteur de tout ça, ses conjoints? Ou...
Non. En général, dans le cas des écoles, c'est vraiment de la co-création. Okay. Donc, les enfants participent de A à Z au processus. Oui. Par contre, des fois, les équipes écoles, les professeurs et les directions s'en mêlent. Donc, des fois, effectivement, les directions d'école ont plus envie d'avoir de la représentation de l'équipe de football ou
Les mots des valeurs du code de vie de l'école
sur
mur.
Oui, c'est ça, du club informatique qui rayonne à travers la province que ce que souhaitent les enfants, mais on essaie de composer avec ça. Puis même ça fait partie des apprentissages. Si un comité de jeunes a une idée pour un projet créatif, ben d'aller le présenter à la direction, ben nous, on l'approche comme si tu étais en agence de pub.
Ah oui, OK.
Et tu es un créatif en agence, puis là, ben tu dois aller faire un pitch, puis faire la promotion de tes idées, puis les défendre devant un comité. Alors, ça fait partie de la game.
C'est une belle démarche, puis ça donne un bel avant-goût. Un bel avant-goût de la suite. Dans les écoles, si je me fie à mes chiffres, là, vous avez quand même plus de 5 écoles et milieux communautaires, là, plus de 500 quand même projets qui ont été réalisés dans un peu plus de 15 ans d'existence. En votre organisme, là, si je me souviens bien. Et à l'extérieur, on peut trouver plus de 220 à peu près murales extérieures. Ça ressemble à ça. Et vos murales extérieures, est-ce qu'elles sont toutes documentées sur votre site web ou en tout cas les principales?
Oui, toutes les murales sont sur notre site web, les murales extérieures. Ouais. Dans les murales intérieures, la majorité des murales scolaires sont là aussi, bien que certains projets qui nécessitent un peu plus de protection de l'image avec les enfants. Donc, pas tout y est.
Tout à fait, mais c'est une encyclopédie de Montréal à ciel ouvert extraordinaire. et vous avez réussi à faire la captation vidéo fantastique. Là. Je repense encore à celle de Leonard Cohen qui est sur la rue Crescent. Je ne sais jamais comment prononcer, mais dans ce coin-là, mais qui se voit quand même de quelques places. Vraiment, c'est fascinant. On va en reparler, si vous voulez bien. On va prendre une courte pause. On va parler encore de tout ça dans quelques instants.
À tout de suite.
Woo!
Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Elisabeth Anne Doyle, qui est directrice générale artistique et cofondatrice de l'organisme qui s'appelle MU. Juste avant d'aller à la pause, puis au cas où je l'oublie, parce que je ne rajeunis pas dans cette émission-là, si vous voulez voir, on parlait de l'encyclopédie à ciel ouvert, là, si vous voulez savoir où sont les œuvres, quelles sont les œuvres, découvrir les artistes aussi derrière ces œuvres-là, vous pouvez vous rendre sur mumtl.org, donc mumtl.org. Vous allez trouver ça... extrêmement fascinant. Il y a de tout, hein. Il y a des œuvres. Ce que je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il y en a qui sont accessibles pour les gens qui ont peut-être un premier contact avec l'art. Donc, une œuvre sur Jean Duceppe, ben, on peut comprendre, on peut fouiller un peu plus loin. Donc, il faut creuser un peu plus pour voir la compréhension. Puis l'art, c'est extraordinaire, c'est que ça fait réagir les gens de façon complètement différente par rapport à leur vécu, leur bagage, puis comment ils sont au moment où ils expérimentent ça.
Ben oui, c'était vraiment ça le but de cette série-là, d'ailleurs, qui s'appelle la collection d'hommages aux bâtisseurs culturels de Montréal. C'est effectivement de se dire, ben, c'est une façon de contribuer à l'histoire de l'art local et qu'effectivement, ces personnes-là, c'est un legs, c'est un hommage, mais c'est comme ça reste dans le temps, ben, qui est cette personne? Ça permet d'ouvrir la porte à un certain aspect pédagogique sur le passé aussi. Puis comme il y a tellement de mutations dans les quartiers, sur le tissu social, puis... Les gens qui vivent et qui déménagent un peu partout à Montréal, ben c'est vraiment une façon de découvrir, en fait, ce Montréal des artistes.
Puis les artistes que vous qui collaborent avec vous dans ces différents projets-là, je veux dire, je pense à un Marc Séguin, là, je l'ai vu faire des toiles, j'ai vu faire des très belles étiquettes de bouteilles de Pinard et Fée, j'ai vu faire des beaux trucs un peu partout. Il ne doit pas faire des murales à toutes les semaines et j'imagine que vos artistes n'en ont peut-être pas nécessairement fait une trollée avant d'arriver sur un grand mur de béton et de le faire. Comment ça se vit, toute cette dynamique-là? Puis quand vous approchez, bien, je ne sais pas si c'est vous qui approchez les artistes puis vous leur présentez un projet en fonction de la nature du projet puis de leurs compétences puis de leurs intérêts, mais comment ça se passe pour un artiste qui fait face à un très, très grand terrain de jeu qui peut être un grand mur de béton?
Je dirais deux choses. D'abord, tout peintre n'est pas muraliste.
Ouais.
Donc, c'est une forme d'art à part entière, l'art mural. Ça prend une compréhension de l'espace, de la hauteur, de l'ensoleillement, de la perspective. Même la peinture, c'est pas la même que ce qu'on utilise sur un canevas.
C'est donc, ça, la toile ne boit pas la peinture de la même façon que du béton.
Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment un autre métier. Ceci dit, quand nous, on a commencé MU, évidemment, on cherchait des muralistes expérimentés, okay, puisque nous-mêmes n'avions pas cette expérience de productrice. Alors, on a vraiment été s'entourer de gens qui étaient compétents puis qui pouvaient nous apprendre comment mieux les aider. Aujourd'hui, après 15 ans, ben, on a acquis cette expérience, cette expertise, et ça me permet d'être plus courageuse à... mentorer des jeunes artistes qui sont en début de carrière et qui voudraient apprendre l'art mural. Donc là, aujourd'hui, on est capable de mentorer des artistes émergents. Et on a une cohorte l'été. On recrute à Concordia et à l'UQAM dans les facultés de beaux-arts. Et on a vraiment une cohorte. Ça aussi, c'est un peu notre troisième projet éducatif auprès de jeunes adultes. Donc... finissant en beaux-arts, puis qui peuvent apprendre en assistant d'autres artistes le métier de muraliste.
Oh, c'est extraordinaire. Et j'ai parlé tantôt, le béton ne boit pas la peinture de la même façon. Là. Vous voyez bien que je ne connais pas ça, j'ai sûrement pas les bons termes. Mais tu sais, une œuvre d'art dans un musée, il y a de la préservation, de la conservation, éventuellement il y a de la restauration. Une œuvre, c'est un mur de béton, ça vieillit-tu bien? Est-ce que ça a besoin d'un petit touch-up à un moment donné où on laisse ça aller puis la nature suivra son cours puis ça fera partie de la vie de voir l'œuvre, c'est peut-être s'écailler avec le temps puis ça donne le petit lustre, là. Mais comment vous voyez ça, ces œuvres-là, dans la durée?
Bien, c'est une très bonne question. Chez MU, on a toujours visé pérennité, ce qui n'est pas nécessairement un terme qui est associé à l'art mural puis qui est considéré comme une forme d'art éphémère. Versus des œuvres d'art public comme des sculptures de bronze ou des choses qui sont vraiment considérées comme des œuvres permanentes. Ouais. Mais nous, on a toujours aspiré, comme on est dans, en fait, de l'art social et de façon pérenne et responsable. On a toujours visé la longévité. Ceci dit, on est au Québec, il fait froid, on a des hivers curieux et Mère Nature nous manifeste sa complexité avec les années qui passent. On voit les redoux, puis des tempêtes de neige en novembre, puis après ça, des plus 10 en janvier. Et ça prend de l'entretien.
Oui. Hein?
Oui. Donc, ça prend de l'entretien, puis ça prend tout un travail en amont pour justement avoir préparé les œuvres et s'assurer que les murs sont sains. Donc, des fois, on fait même des travaux de rejointement, du nettoyage.
Ah oui.
Ouais, on s'assure vraiment que toutes les surfaces qui vont recevoir des œuvres sont saines. Ensuite, on utilise les bons matériaux, la meilleure qualité de produit possible. Puis après ça, ben, il y a effectivement une vigie. Et là, on commence.
Parce que les premières années, la question se posait probablement pas, là, après 15-17 ans d'existence.
Oui, bien, on a toujours, ceci dit, mis des fonds, 10 % du montage financier de chaque projet dans un fonds de prévoyance,
oui, okay.
Dans cette idée-là. Et on s'occupe encore à ce jour de toutes nos murales. Mais c'est sûr que là, elles commencent à nécessiter davantage d'entretien, les premières, et on a commencé à le faire. Alors, plus ça va aller, je pense que plus on va devoir justement se développer une expertise. Vous mentionnez le mot musée tout à l'heure, comme des conservateurs, donc en restauration et conservation d'œuvres d'art public.
Oui, oui, effectivement. Le climat montréalais et tout ce qui vient avec, là, je pense à une œuvre qui n'est pas avec nous, mais quand je me rendais à l'aéroport de Dorval, il y avait bleu de bleu,
ouais.
qui est devenu rapidement gris de gris après un hiver, puis un peu de sel, puis évidemment tout ce qui sort des exhausts des voitures. Mm. Donc il faut aussi faut naviguer avec la réalité dans laquelle vous êtes. Là, évidemment, il n'y a pas autant de véhicules nécessairement qui passent à côté des beaux projets de murales, mais quand même, des fois, l'hiver et toutes les autres saisons peuvent être dures là, sur les heures. On l'a dit d'entrée de jeu dans la première partie de l'émission, ce qui vous distingue notamment, c'est que vous êtes un organisme de bienfaisance. Donc, vous avez une mission qui est une mission, évidemment, d'apporter de l'art, d'apporter de l'embellissement, de la revitalisation. Vous avez une approche qui est certainement, en tout cas, je trouve audacieuse, mais franchement intéressante pour rapprocher le public à l'art. Parce qu'on en reçoit, on reçoit pas mal juste des organismes de bienfaisance à notre émission, là, et évidemment, la question, il y en a pour lesquels c'est évident. La semaine passée, on avait les banques alimentaires. Les gens font, ben oui, les gens ont faim, ils manquent de nourriture. C'est pas compliqué. Il y a comme quelque chose d'universel avec ça. L'art, ça a longtemps été attribué à des grands mécènes, hein, des grandes familles qui ont tous des pavillons dans les musées avec leur nom, puis c'est extraordinaire. Mais la réalité n'est plus nécessairement toujours celle-là. Mais qui donne, je vous dirais, à des projets comme ça? Qui sont les bailleurs de fonds types là, qui vont soutenir ces projets-là et qui disent « ben oui, moi j'ai goût d'investir dans l'art, dans la beauté de Montréal et comment ça fonctionne, la philanthropie un peu chez vous dans une organisation comme MU? »
Ben c'est sûr qu'on a quelques grands donateurs qui sont tous liés au service éducatif.
Ouais.
Donc, vraiment des gens qui sont intéressés par l'art et l'éducation des arts auprès des jeunes. Mais ce qui est fascinant sur la majorité des donateurs, la philanthropie chez MU, c'est une philanthropie de proximité. Mmh. Et elle ressemble aux produits MU, en fait, donc de taille et d'échelle humaine et dans les quartiers. Donc, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui donne à MU. Et d'ailleurs, nos campagnes Mardi, je donne chaque année, ont beaucoup, beaucoup de succès. Puis, on se révèle toutes sortes de personnes qui sont dans nos entourages, c'est allant de la tante d'une artiste à quelqu'un qui vit, qui voit une œuvre dans son quartier tous les jours, puis qui dit « Ah, merci MU, j'en profite, je vous donne 20 $ j'aimerais ça faire plus. » Donc, on a une philanthropie modeste, mais généreuse de cœur et de message.
Oui, parce que tu sais ce qu'on voit souvent dans des projets philanthropiques, c'est qu'il y a des projets particuliers qui résonnent. J'imagine, par exemple, vous annoncez, je ne sais pas comment vous le faites, mais une œuvre plus populaire ou un artiste que vous mettez en lumière de façon populaire, ça peut attirer, mais après ça, quand on est dans quelque chose de plus peut-être marginal ou moins connu, ben on réalise que le financement est souvent inégal dans tout type d'organisation. J'imagine que vous n'y êtes pas complètement indifférent, mais mais ça doit pas être toujours stable. Le financement, j'imagine que ça doit quand même poser certains défis. Quand vous avez parlé de pérennité, pérennité du financement aussi doit suivre. Là. Ça doit poser quand même certains casse-têtes des fois. Là.
C'est très instable parce que MU est financé à 100% en gestion de projet.
Oh.
Donc, chaque murale est financée 1 $ à la fois, une murale à la fois, sans prévisibilité. Donc, on reçoit seulement 22 000 $ du Conseil des arts de Montréal en soutien à notre fonctionnement, soutien à la mission.
OK, oui.
Tout le reste de MU est financé 1 $ à la fois.
Ben,
donc, c'est beaucoup de travail.
C'est beaucoup de travail. On lance l'appel, évidemment, aux gens qui sont interpellés par les arts sans être de grands mécènes. Chacun peut faire sa part pour soutenir un peu d'embellissement de notre ville de Montréal. C'est un très, très grand plaisir. Le temps a passé beaucoup trop vite. Elisabeth Anne Doyle, merci beaucoup de vous être prêtée au jeu.
Merci de l'invitation.
Merci.